On est en compagnie de nos invités, Madame la Bricoleuse, bienvenue, et Sabine Panet, bienvenue à toutes les deux dans ces promesses de l'aube. Madame la Bricoleuse, Mademoiselle la Bricoleuse, peu importe.
Bonjour.
Ça fait quelque temps que dans chaque numéro d'Axel, donc la revue, le mensuel féministe, il y a une fiche pour nous donner les trucs, les ficelles pour réaliser diverses choses. Et c'est la fiche bricolage. Comment est venue cette idée? Comment Axel a pu vous proposer de faire cette fiche? Et depuis quand ça existe?
Mais en fait, je dois d'abord dire que à Axel, depuis 1998, il y avait une page qui était consacrée, une double page même, non, une page simple, je crois, pardon, qui était consacrée à des recettes de cuisine. Et donc, quand moi je suis arrivée comme nouvelle rédactrice en chef du magazine, j'étais un petit peu, j'étais déjà lectrice du magazine, donc j'étais un peu, disons, questionnée par l'existence de cette page cuisine, mais en même temps, voilà, il y a des tas de lectrices, enfin, le lectorat d'Axel est hyper diversifié. Il y avait des femmes lectrices du magazine qui, visiblement, appréciaient leur fiche cuisine. Mais j'avoue que de mon regard, disons, fraîchement arrivé, j'étais un peu en questionnement par rapport à l'intérêt d'avoir une fiche cuisine dans un magazine féministe. Sachant que dans tous les magazines féminins, il y a des fiches cuisine et que les femmes, elles peuvent en trouver partout maintenant, en bibliothèque, sur Internet. Enfin voilà, ça me paraissait pas... D'autant plus qu'on a peu de pages, 48 pages par mois. Nos pages se remplissent très vite. Enfin, il y a un vrai enjeu à... Enfin, chaque page est vraiment comptée, pesée, sous-pesée et précieuse. Donc voilà, donc on commençait à remettre un peu en question l'existence de ces fiches cuisine, à la fois d'un point de vue féministe, d'un point de vue pratique, d'un point de vue de sens par rapport à notre ligne éditoriale. Et puis on commençait à se dire, il faudrait faire quelque chose de pratique, de concret, pour remplacer ces fiches cuisine, parce que dans Axel, on parle à la fois de sujets d'actualité, on publie des grands reportages, on parle de sujets de société, on fait des portraits, des interviews, on a un cahier culture, un cahier d'actu, mais aussi un cahier pratique, et on y tient, on trouve que voilà, c'est important. Et donc on commençait à questionner, à se dire par quoi on pourrait remplacer ces fiches cuisine en fait. Et en discutant avec des collègues, on trouvait que ça pourrait être chouette de les remplacer par des fiches bricolage en fait. Et en fait, ça rencontrait tout à fait la proposition de laisser en parler.
Oui, moi finalement en tant que lectrice, j'avais un peu la même réflexion. Je me demandais pourquoi mettre des fiches cuisine dans un mensuel féministe, étant donné qu'on y a accès dans plein de magazines féminins, et je trouvais ça dommage que pour les lectrices ça soit de nouveau une répétition des mêmes stéréotypes, même si c'est très intéressant les fiches cuisine et que c'est chouette d'avoir des bonnes recettes pour cuisiner de bonnes choses. Donc de mon côté, dans mon coin, je m'étais fait la même réflexion et j'ai eu la proposition de ce projet par une amie qui travaillait au magazine à l'époque, et ça a tout à fait écho aux réflexions que je me faisais, et donc ça tombait vraiment très bien, et voilà.
Et donc ça a fait plus de 4 ans, hein. Ça fait 4 ans et demi qu'on publie tous les mois des fiches bricolage, tests... peaufine dans son atelier maison avant de les mettre en texte et en images. Et donc on a des chouettes retours de nos lectrices qui commencent à tester et à se sentir renforcées par ces fiches bricot. J'imagine qu'on aura l'occasion de parler de ce que ça fait en fait, pourquoi est-ce que même à la lecture des fiches bricot on peut se sentir déjà renforcé. On n'est pas forcément obligé tout de suite d'aller changer une prise, mais rien que savoir qu'on peut le faire, c'est déjà un sacré progrès par rapport à la situation de dépendance totale par rapport aux hommes dans laquelle on place les femmes par rapport au bricolage, quoi.
Oui, du coup, c'était, c'est effectivement un renversement des clichés aussi de la femme qui ne s'est pas changé une prise, qui s'est pas regonflé le pneu de son vélo ou changé une roue de voiture. Et donc, comment vous avez choisi de faire passer ce message aussi sans que ce soit trop complexe, quel est le ton de ces fiches le fait d'avoir choisi de les illustrer avec des dessins. Est-ce que les dessins, c'est toi qui les fais aussi?
Oui, donc je fais l'ensemble des fiches, le texte et les dessins. Puis évidemment, il y a une graphiste après ou des graphistes qui travaillent sur la mise en page. Et le choix du dessin, bon, c'est déjà un choix voilà, personnel parce que j'aime bien dessiner. Mais au-delà de ça, c'est l'idée du dessin et aussi de faire des personnages toujours différents. Pour moi, c'était l'idée que chacune puisse s'y reconnaître. Donc d'essayer de représenter un maximum de diversité de personnages et que chacune puisse se projeter sur ses fiches et dans ses dessins et se dire « Ah, éventuellement, ça pourrait être moi » et s'en inspirer, voilà.
Et justement, comment est-ce que ça fait écho aussi à ton histoire de femme et de petite fille aussi, ado, à qui on aurait dit « tu ne peux pas faire ça, laisse, on va faire à ta place ». Est-ce que c'est des choses que tu as pu vivre dans ta vie personnelle? Ce rapport au bricolage, d'où il vient aussi? Parce que j'imagine que pour les écrire, il faut savoir le faire aussi.
Mais pour préciser là-dessus, donc moi, je suis pas du tout une spécialiste, donc je suis vraiment débutante à plein de niveaux, mais je pense que c'est un moment, un décalage d'esprit, on va dire, une décision de se dire bon, en fait, je suis pas incapable, je peux le faire. Et je crois que moi, dans mon parcours, comme toutes les femmes, oui, j'ai été mise de côté par rapport au bricolage, on m'a pris les outils des mains ou on m'a pas proposé de faire des choses. Donc j'ai pas du tout grandi avec un apprentissage du bricolage. J'ai plutôt grandi dans un environnement intellectuel, donc j'ai une formation plutôt littéraire et artistique. Mais petit à petit, j'ai évolué plutôt ado dans des milieux où le DIY, donc faire les choses soi-même, était très valorisé. Et j'ai pu toucher à beaucoup de choses petit à petit auxquelles j'avais pas spécialement accès en tant que femme dans cette société. Et voilà, ça m'a encouragée à mettre la main à la pâte. Et ce qui m'a aussi permis de plus faire des choses, de bricoler, c'était d'être dans des environnements soit collectifs, donc où on essayait d'être, de s'autonomiser un maximum par rapport à la société capitaliste et à fonctionner par nous-mêmes et aussi en dehors de l'appel aux spécialistes et aussi par la suite d'être dans des environnements féministes où ben voilà forcément on apprend aussi à faire les choses par soi-même et à se débrouiller sans les personnes habituelles, les hommes qui nous rendent service.
Et du coup, comment si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour présenter le deuxième volume du recueil des fiches. Et donc, vous avez choisi l'an dernier déjà de faire un recueil de 20 fiches. Et là, c'est le deuxième volume. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces recueils et à les rassembler en un manuel de bricolage?
Bah, les fiches, il y a plusieurs choses. D'abord, on avait, en fait, nous, je pense, en fait, on avait envie, ça nous a complètement trippé, ça nous a rêvé de se dire qu'on pouvait avoir un recueil de nos fiches brico, rien que l'idée nous a biché. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu un changement de maquette dans le magazine en 2016. En 2016. Et donc, on s'est dit, on va juste en fait faire comme si on allait les découper et puis on va les réunir et ça va être hyper simple. En fait, ça a été un peu plus compliqué que prévu parce qu'il a fallu refaire la mise en page d'une douzaine des fiches qui avaient été mises en page avec notre ancienne maquette, mais voilà, qu'on avait vraiment envie de renouveler. Donc on a fait tout ce travail de remise en page, de mise au format aussi, parce que on voulait que les guides brico aient un format A4 pour qu'ils puissent être éventuellement facilement photocopiables, partageables, éventuellement imprimables, ça j'imagine qu'on en reparlera aussi, pour qu'ils soient diffusables, voilà, parce qu'ils sont pas de, ils sont sans, enfin ils sont en Creative Commons, ça pour Georges c'était important, mais voilà, c'est à elle qui doit nous en parler. Et donc il y a eu tout ce temps de travail graphique, de remise au format, de retravail des dessins pour une publication à plus grande échelle, disons. Et puis on s'est dit, on a fait un 1, il a bien marché, on a dû le réimprimer. On n'en avait pas imprimé beaucoup d'exemplaires parce qu'on ne savait pas très bien comment ça allait partir. Et puis c'est un peu comme d'habitude dans les chouettes projets, on a beaucoup d'enthousiasme mais pas tellement de sous, ni tellement de temps pour faire de la communication à grande échelle. Donc finalement on l'a surtout distribué dans nos réseaux, dans les réseaux d'Axel, dans les réseaux de vie féminine. Et puis c'est assez bien parti et on a dû en réimprimer. Donc on s'est dit, logiquement on fera le 2 et puis peut-être un jour on fera le 3 et on fera une méga compile des 1 et des 2 et des 3. Et donc l'idée est venue parce que c'est une chose d'avoir ses fiches dans son magazine tous les mois. On peut soi-même les découper, les photocopier, les passer aux amis, aux proches. Mais c'est autre chose d'avoir entre les mains un véritable recueil qui valorise les fiches et donc qui valorise les femmes, les compétences de bricolage des femmes, qui est un beau cadeau qu'on peut offrir. Les guides sont aussi enrichi par rapport aux fiches mensuelles. Ça, je peux peut-être te laisser en parler dans les guides. Il n'y a pas que les fiches. Il y a plein d'autres choses aussi qu'on n'a pas la place de mettre dans les numéros mensuels.
Oui, peut-être on peut décrire un peu ce qui se trouve dans ces deux tomes de On bricole toutes. Mais juste pour revenir à la question d'avant, donc c'est vrai que pour moi c'était aussi vraiment un souci d'accessibilité, d'avoir différents formats sous lesquels on peut accéder aux fiches. Donc il y a le format par le magazine, le livre, et on espère d'autres formats dans le futur. Et à un prix, ici en tout cas pour le livre, on a essayé de faire un prix minimum, même si ça reste 15 euros, mais par rapport au format et à la couleur et tout, ça reste un prix plutôt minimum. Et l'idée c'était que ça puisse effectivement sortir du réseau du magazine, et que les personnes puissent le laisser traîner, l'offrir en cadeau, le diffuser dans leur entourage. Et au niveau du contenu, c'est enrichi effectivement par les différentes intros, textes qui expliquent un peu la démarche. Et puis il y a aussi un carnet de ressources à la fin de plusieurs pages dans lequel on trouve des bonnes adresses en Belgique pour apprendre à bricoler, participer à des ateliers collectifs ou des ateliers de réparation. On essaie de mettre en avant des initiatives qui sont proposées par des femmes, mais il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-unes. Il y a aussi des listes de sites internet, de livres. Je cite quelques rubriques comme ça pour vous donner une idée. Donc il y a bricolage et réparation en général, autoconstruction et rénovation écologique, autonomie, mécanique, vélo. Donc il y a travail du bois, nettoyage, et il y a aussi une rubrique où trouver des outils. Donc ça c'est aussi une partie que je trouve importante, parce qu'effectivement même si on veut bricoler, on n'a pas toujours accès aux outils. Il n'y a pas toujours besoin de beaucoup d'outils ou d'outils très spécialisés, mais avoir une petite base ça aide quand même. Et donc il existe plusieurs systèmes pour trouver des outils, que ça soit des bricothèques, qui sont des espèces de bibliothèques d'outils où on peut les louer ou les emprunter. Il y a aussi des plateformes sur Internet, et il y a aussi accès à des outils dans des ateliers partagés ou dans des associations. Enfin voilà, il y a plein de sources comme ça.
Il y a aussi des témoignages, et ça je trouve que c'est vraiment un point important. Dans le premier guide, c'est beaucoup de témoignages de femmes, de bricoleuses, qui dans leur histoire personnelle ont dû faire face au sexisme à partir du moment où elles ont voulu s'emparer d'un outil, mais elles ont quand même bricolé, elles bricolent quand même, et elles arrivent quand même à faire ce qu'elles veulent. Elles s'y mettent parfois ensemble, et puis elles encouragent les lectrices. Et dans le guide 2, elle a recueilli des témoignages de femmes qui utilisaient le guide, et qui partagent ce que ça fait d'utiliser le guide, comment quand elles ont réalisé telle ou telle fiche, elles se sont senties renforcées, dans quel contexte elles l'utilisent.
On lirait un témoignage, peut-être ?
Ben oui, oui. Il y en a un que tu as envie de pointer particulièrement ?
Tous.
Tous sont chouettes.
Oui. Dans le premier guide, par rapport aux bricoleuses qui font face au sexisme, il y a Zora qui dit que quand elle était petite, elle n'avait pas le droit d'approcher les machines, même pas la tondeuse. En revanche, elle avait le droit d'approcher la machine à laver et le fer à repasser. Je trouve ça extrêmement dangereux, moi, un fer à repasser, personnellement. toutes les femmes, Jackie de Herculine, qui dit qu'elle trouve uniquement des salopettes roses en taille 38 quand elle va dans un magasin de bricolage et qu'elle veut trouver des vêtements pour bricoler. Une femme anonyme explique que quand elle achète une tronçonneuse, le vendeur parle uniquement à son mari à partir du moment où elle ne dit pas que c'est elle en fait qui va tronçonner, etc. Donc tout le sexisme au quotidien, les femmes qui n'ont pas été encouragées à bricoler quand elles étaient plus jeunes, ou tous les hommes qui disent « non mais je vais faire à ta place, ça ira plus vite », etc. Et puis Zora conclut en disant, une phrase que j'adore, « on n'est pas nul en bricolage ». C'est juste qu'on ne nous a pas appris, personne ne naît avec une clé à molette dans la main droite. Donc voilà, je trouve que voilà, son témoignage est vraiment chouette. Et puis ensuite, elles encouragent beaucoup les femmes. Et Monique dit, pour encourager les femmes, je dirais, essayez, c'est pas trop compliqué. Et voilà, je trouve que Monique résume très bien la situation.
Ben parfois c'est compliqué quand même, mais il faut pas se laisser abattre.
Mais c'est compliqué pour tout le monde, parfois oui. Pas que pour les femmes. C'est pas parce qu'on est femme que c'est compliqué, c'est parce que c'est compliqué que c'est compliqué. Et
oui, je crois qu'il y a vraiment un stéréotype à briser là, parce qu'il y aurait cette idée qu'il y a des personnes qui sont bricoleurs nés, pour qui c'est facile, et d'autres pour qui c'est difficile, qui sont nuls, et en général ça correspond aux hommes d'un côté, aux femmes de l'autre. Et en fait, apprendre à bricoler, c'est vraiment un processus qui est interminable. Enfin, on est toujours confronté à des nouvelles erreurs. Et dans un autre témoignage que j'ai reçu, il y avait une personne qui disait finalement, savoir bien bricoler, c'est juste arriver à faire le tri entre toutes les erreurs qu'on a faites précédemment et arriver à trouver les solutions à travers ça. Et je trouve que c'est assez bien résumé aussi.
Une piste qui est donnée par l'électrice, c'est de s'y mettre à plusieurs. Ça paraît évident, mais en fait, c'est pas si évident. Et vraiment, ça a l'air d'être très renforçant. Voilà, dans le premier guide, on a recueilli des témoignages de femmes qui expliquent que commencer avec des personnes de confiance, sans regard inquisiteur, sans regard stressant, ça les a vraiment aidées, à la fois à prendre confiance et puis à continuer tout simplement.
Je propose une pause musicale. Vous avez apporté une playlist, donc je suis tout ouïe, je mets ce que vous voulez.
Oui, j'ai apporté quelques morceaux. Peut-être on peut commencer par un morceau de Juliette Nouridine, qui est une chanteuse et parolière et compositrice française. Oui. Et y en a deux que j'ai amenés. On pourrait peut-être écouter Garçon manqué,
okay.
Qui parle de comment les stéréotypes de genre t'enferment et te restreignent. Et je trouvais que c'était approprié par rapport à notre sujet.
On fait ça, on écoute Garçon manqué, Juliette Nouridine.
Toute seule sur une marche d'escalier, j'ai 10 ans demain matin et je m'ennuie. Je regarde le grand tapis de l'entrée et j'imagine un pari contre lui. C'est un long fleuve de laine rouge et noire, dans le noir des serpents, des aliens, scolopendres, salamandres, des pitons gluants qui bougent, mais danger à côté, faut pas tomber dans le rouge. Brûlé, heureusement pour traverser, il y a un pont, c'est le jaune comme une passerelle de bambou, sans jamais toucher la lave en fusion. Ni tomber dans les reptiles noirs et mous, faudrait que j'arrive à passer jusqu'au bout. Et pour mon anniversaire, on me donnera demain un beau sabre de corsaire, une boîte de mécano, un vrai camion de pompier, une tenue de zoo. Des soldats de Napoléon, adieu les sales poupées, les jupes et les jupons. La perpétuelle punition, la cruelle contrefaçon, l'erreur de fabrication. Maintenant, assez parlé, faut y aller. Et sur la pointe des pieds, je me lance, l'œil rivé sur le chemin concentré, les deux bras en balancier dans la danse. Attention, par là ça grouille de cobras et de rats, il faudrait que je me débrouille pour sauver sur ce guet. Ça va être périlleux, mais hop là, Indiana Jones ferait pas beaucoup mieux que moi. Je reprends mon souffle et mon équilibre, titubant sur un rocher qui vacille. Encore un effort et je serai libre. loin des charbons ardents, des noires anguilles, où je joue mon dernier jour de petite fille. Car pour mon anniversaire, on me donnera demain un beau sabre de corsaire, une boîte de mécano, un vrai camion de pompier, une tenue de saut. Les soldats de Napoléon, adieu les sales poupées, les jupes et les jupons, la perpétuelle punition, la cruelle contrefaçon, l'erreur de fabrication. Ne jamais sous-estimer l'ennemi, jusque-là c'était presque ridicule. J'ai senti s'agripper une froide mandibule. Ça me tire, ça m'entraîne, ça me mord, et ça siffle et ça souffle en colère. Le pont craque, le pont grince et se tord, et je glisse, je m'accroche, mais je perds. Un pied dans la braise rouge écarlate, et dans le fond de la désillusion, je n'aurai pas mon sabre de pirate. C'est encore manqué pour être un garçon.
C'était donc Juliette Nourédine et c'était un choix musical de La Bricoleuse. Donc merci pour cette sélection musicale. Et donc on est toujours en compagnie de La Bricoleuse et de Sabine. C'est toujours Les Promesses de l'Aube. Et on parle de ce très beau recueil de fiches bricolage d'Axel. C'est le volume 2. Il y a donc un volume 1. Et... Mais dites-nous un peu comment on peut commencer à bricoler. Et peut-être aussi, juste avant la pause musicale, on évoquait les témoignages de certaines femmes donc, qui expliquaient comment elles s'y étaient mises et puis comment ça les avait donné de l'empowerment, comment ça les avait autonomisées. Et en vous écoutant, je me disais, il y a quelques jours, là, je lisais une statistique aussi par rapport au nombre de personnes qui vivent seules à Bruxelles et au nombre de femmes qui vivent seules. Donc comment on fait effectivement quand on est femme seule, qu'on soit avec ou sans enfant, hein, mais que justement ce que vous évoquiez de le faire ensemble, parfois c'est pas toujours possible non plus, toutes les femmes n'ont pas un réseau, un groupe d'amis qui sont potentiellement désireuses de faire du bricolage. Donc est-ce que vous avez eu des témoignages de femmes qui disaient, ben voilà, moi je suis toute seule et je l'ai fait et merci beaucoup.
Eh bien, on a eu pas mal de témoignages, que ce soit ceux qui sont repris dans le livre ou d'autres qu'on a eu oralement. Et je pense qu'il y a des échos différents parce que c'est pas facile pour tout le monde de s'y mettre parce qu'il faut aussi le temps, effectivement, et tout le monde n'a pas le temps. Et je pense particulièrement aux femmes qui habitent seules avec des enfants. Donc voilà, ça c'est varié, mais je crois qu'effectivement une très bonne piste c'est de s'associer avec d'autres personnes. Alors peut-être qu'on n'en a pas dans son entourage, mais si on en parle, je pense que souvent on peut quand même en trouver. D'autres femmes ou d'autres personnes avec qui bricoler. Et sinon aussi se tourner vers des associations de quartier ou des endroits plus militants dans lesquels ce genre d'activités sont parfois proposées. Et je trouve aussi qu'on voit de plus en plus d'initiatives, d'ateliers collectifs, publics où on peut venir bricoler. Et il y en a plusieurs qui sont repris dans la liste des ressources à la fin du livre. Entre autres, je voyais là dans le journal la semaine dernière un endroit où j'ai pas encore eu l'occasion d'aller, mais à Ixelles, qui s'appelle Fais-le toi-même, voilà, qui est proposé par deux femmes, et c'est un atelier collectif où il y a des cours qui sont proposés, puis il y a aussi des outils auxquels on peut avoir accès, tout ça. Mais voilà, je pense que le fait de se regrouper, c'est vraiment un premier pas. Parce que déjà, ça permet de partager ses problématiques, ses expériences. Et puis aussi de mettre en commun les ressources, que ça soit les choses qu'on connaît déjà ou les outils qu'on a. Et en fait, tout le monde a des ressources. Même, on s'en rend pas toujours compte, mais quand on commence à en parler, en fait, tout le monde a déjà fait un petit truc. Ça doit pas être grand-chose, ou a des idées dans sa tête, ou voilà, mettre en commun les idées, on arrive à se dépatouiller des problèmes. Voilà, donc ça, c'est vraiment une démarche, je pense, qui est très renforçante. Après, avec qui s'associer, ça pose question aussi. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'ai été souvent dans des ateliers de réparation publique, mais qui sont majoritairement dominés par les hommes. Et il y a quand même beaucoup de gens qui viennent t'expliquer, beaucoup d'hommes qui viennent t'expliquer, et puis qui viennent te montrer, puis qui te prennent gentiment les outils des mains pour faire à ta place. Donc, je trouve que dans les espaces collectifs, s'ils ne sont pas clairement féministes, c'est quand même une lutte pour garder les outils en main, pour essayer de faire soi-même, et pour avoir le temps aussi de se tromper, de réessayer. Et je trouve qu'il y a pas mal de pression à réussir rapidement quand on bricole en public et tout ça, quand on est une femme. Moi, j'ai quand même souvent le sentiment qu'on me surveille du coin de l'œil pour voir comment je me débrouille. Et on vient souvent me proposer de m'aider, alors que j'ai l'impression que le plus important pour apprendre, c'est de pouvoir se planter et réessayer, quoi. Donc voilà, s'associer, mais avec des personnes qui sont patientes, qui sont bienveillantes, qui sont soit au même niveau que soi, donc débutantes ou pas, mais en tout cas qui vont pas avoir un ascendant sur nous, ou alors si elles sont plus avancées, qui vont nous laisser la place, quoi.
Ouais. Et est-ce qu'il y avait un témoignage que vous vouliez particulièrement mettre en avant
Oui, on pourrait peut-être lire un témoignage. Il y en a un qui s'appelle « Refuser qu'on fasse à ma place » par une femme anonyme de 35 ans qui nous l'a envoyé. Donc ça dit « Je suis étudiante en ferronnerie, je soude, découpe, forge, construis avec du métal. Cet apprentissage est riche de renforcement pour moi. Le métal, c'est lourd, froid, dur, salissant, trop chaud. Faut taper fort. Rassembler sans réfléchir, les stéréotypes à ce sujet, dont on est nourri depuis la naissance, et vous verrez comment ils contrecarrent les principes de la féminité normative. Assumer ma lenteur à apprendre, parce que je n'ai eu que très peu d'expérience de bricolage dans ma vie. Refuser qu'on fasse à ma place, qu'on me donne des conseils que je n'ai pas demandé. Ne pas être sympa, ni gentil. Faire taire ceux qui me mettent en doute, autour de moi et dans ma tête. Trouver les personnes de confiance à qui demander de l'aide. Refuser d'être laissé sur le carreau parce que pas assez sympa. Accepter de faire des erreurs, très très idiotes même. Apprivoiser la peur quand on se confronte à une difficulté nouvelle. Concevoir un projet et devoir tout changer. Que ça prenne 4 fois le temps. Apprendre que les difficultés et les grosses erreurs qui surgissent sont inévitables, qu'elles font partie du travail, qu'elles ne sont pas du tout le reflet de notre impuissance congénitale. Que ce qui fait le pro, c'est la capacité à trouver des solutions dans un répertoire très large d'erreurs mémorisées, à éviter ou à surmonter.
Oui, ça montre tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, en résumé, et aussi ce regard qu'on peut avoir dès qu'on passe la porte d'un magasin de bricolage aussi, souvent, il y a, à part les caissières, dans les magasins de bricolage, il y a rarement des femmes qui sont là pour y travailler. Donc, l'image qu'on nous renvoie aussi, c'est que c'est un antre masculin et aussi forcément ce qui me frappe toujours, c'est quand on est justement un homme et une femme, c'est toujours à l'homme qu'on va poser la question, à qui on va s'adresser dans ces lieux-là, et c'est très difficile de contrecarrer ça aussi. Donc l'idée d'être dans des lieux de femmes féministes, c'est important aussi.
Oui, juste pour rajouter là-dessus, au niveau des représentations, même quand on regarde sur des sites internet ou dans des livres de bricolage, c'est quand même majoritairement des hommes qui sont représentés, des personnages de type masculin, assez viril en général, et blanc aussi. Donc voilà, c'est vrai qu'avec les fiches, pour moi c'était vraiment important de mettre en avant d'autres types de représentations qu'on trouve habituellement. Et même si on trouve parfois dans les livres maintenant des femmes, mais je trouve qu'elles sont quand même souvent à la peinture ou à la tapisserie. Ouais. Enfin, voilà, c'est quand même encore genré, même si elles sont présentes, quoi.
Oui, je pense, là, en disant à l'émission qui a sur la RTBF, comment ça s'appelle, une émission le samedi soir aussi, où ils vont d'abord visiter des maisons, des rénovations exemplaires, on va dire, et il y a toujours un moment bricolage, entre guillemets. Et donc c'est la femme.
C'est pas une brique,
une brique dans le ventre. Oui, ou quelque chose comme ça. Mmh. Et du coup la femme, elle est quand même un peu, elle aide quoi, mais c'est quand même le gars qui lui explique comment elle doit faire et lui donne juste les petites touches finales à faire. Et donc ça renforce évidemment le cliché, même si on peut déjà saluer que qu'il y ait une femme qui soit là et qui soit. Mais du coup, pour revenir à une des difficultés aussi, en tout cas pour moi, quand je veux faire quelque chose, c'est effectivement cette sensation de pas avoir les outils physiques, hein, le matériel. Et donc, une des fiches, c'est justement ça. C'est qu'est-ce qu'on a besoin pour commencer ? Quelle est la boîte à outils de base, on va dire ?
Oui, donc ça c'est une fiche qu'on a mis en premier dans le tome 2. Alors voilà, ce qu'il faut savoir avec les fiches, c'est que elles sont quand même assez complètes. Il y a pas mal de détails, mais on peut tout à fait faire avec moins. Donc il faut pas avoir peur devant la quantité d'informations. Et là, par exemple, dans se constituer une boîte à outils, c'est le nom de la fiche. Il y a beaucoup de choses, mais voilà, on peut piocher là-dedans allègrement. Mais c'est sûr que ce qui est bien d'avoir quand même, c'est une série de tournevis en premier, et ensuite une série de pinces, et un ou des marteaux, des clés de différentes tailles, et puis des outils de mesure, une scie, et puis quelques choses en plus qui sont toujours utiles, comme un serre-joint pour maintenir des pièces ensemble, et des petits consommables comme des clous, des vis, de la colle, enfin voilà, plein de choses comme ça.
Et par rapport, j'ai une question qui me vient en tête, par rapport aux petits consommables, justement, comment faire pour ne pas se retrouver avec des milliers de vis et de clous différents dont on n'a besoin que de quelques-uns? Est-ce qu'il y a des bourses d'échange? Est-ce qu'il y a du vrac aussi pour ces choses-là et pas se retrouver à devoir acheter 100 clous alors qu'on en a besoin de 3, quoi.
Oui, c'est vrai que depuis que les quincailleries ont disparu, on ne peut plus vraiment prendre ce dont on a besoin en vrac. On est en général obligé d'acheter des boîtes avec 100 vis, ce qui est vraiment nul. Mais je pense qu'une solution, c'est de se tourner vers les ateliers collectifs publics ou d'acheter en commun. On pourrait commencer des espèces de groupes d'achat de vis, en plus des légumes, des paniers vis, pourquoi pas.
Oui, faire une bourse d'échange, comme il y a les bourses d'échange des semences, dire, ah ben voilà, moi j'ai 15 vis de 10 millimètres à échanger contre...
C'est ça, ou dans les brocantes, hein, oui. Il y a quand même beaucoup d'outils dans les brocantes, et même des consommables comme ça aussi. Et moi je trouve les brocantes, c'est un bon plan pour trouver des outils pas chers, et en plus des outils qui sont souvent, même s'ils n'ont pas l'air très neufs, qui sont souvent de meilleure qualité que les outils actuels, parce qu'ils sont fabriqués de manière plus durable.
Et est-ce qu'on a besoin aussi d'outils électriques ? Est-ce que toutes les foreuses, les visseuses, les ponceuses
Mais c'est vrai que ça peut aider. Ils ne sont pas repris dans la fiche « Se constituer une boîte à outils ». Enfin, ils sont juste repris à la fin comme truc qu'on pourrait avoir en plus. Moi, je trouve que ce n'est pas obligatoire pour débuter. Après, si on a, par exemple, un grand chantier à faire ou si on bricole souvent, ben, c'est sûr que ça peut aider. Après, voilà, moi, j'ai des amis plus âgés qui ont été formés à bricoler quand ils étaient jeunes, dans les années 50. Et ben, eux, ils font tout à la main. Ils ne se sont jamais convertis aux visseuses. Donc, voilà, il y a aussi moyen de faire sans. C'est juste parfois un savoir-faire qu'il faut se réapproprier aussi. Mais... voilà, ça c'est typiquement des outils qui coûtent plus cher et qui sont intéressants à mettre en commun.
Oui. D'ailleurs, dans le guide 1, tu nous apprends à nous en servir.
Tout à fait, oui. Il y a une fiche sur comment utiliser une visseuse et comment utiliser une perceuse.
Et qu'allais-je dire? Ah oui, par rapport à ces outils électriques, il y a effectivement, et tu l'indiques en fin de recueil, ces systèmes d'échange aussi ou de prêt entre particuliers, donc qui existent, que ce soit sur des plateformes qui proposent entre voisins, et donc
Oui, moi c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé, mais je sais que ça existe.
Je sais que moi je connais je me rappelle plus le nom, c'est Peerbee, je pense, et qui permet justement de dire ah, je suis dans ton quartier, je cherche que ce soit la foreuse, mais la machine à faire le pain ou une tondeuse ou je sais que ça existe, je suis inscrite dessus, mais je l'ai jamais testé. J'ai jamais prêté ou emprunté quelque chose, mais c'est un moyen aussi de pouvoir renforcer les liens de quartier, peut-être, au-delà des liens de voisinage. Et dans ces fiches, donc, ça brasse très large, et donc il n'y a pas que le bricolage intérieur. On parle aussi de vélo, on parle d'extérieur. Et donc, comment tu choisis? Est-ce qu'il y a une ligne directrice? Est-ce que tu sais à l'avance la fiche que tu vas faire pour le mois suivant? Est-ce qu'il y a une programmation? Est-ce que tu te dis ah tiens, là j'ai plus parlé de vélo depuis quelques mois, je vais refaire une fiche pour aborder ça, ou plus comment ça se passe?
C'est sûr que l'idée oui, c'est vraiment de brasser large pour que ça puisse toucher plein de situations de la vie quotidienne, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, et du coup que plein de personnes puissent se dire ah oui, ça j'en ai besoin, ça m'intéresse. Et où ça, je préfère faire m'occuper de mon vélo, mais bricoler des trucs dans la maison, j'aime pas, ou l'inverse. Voilà. Et au niveau des sujets, c'est sûr que j'essaie de varier. Et puis surtout, je fais toujours des fiches sur des choses que j'ai déjà faites moi-même. Et ça, je trouve que c'est vraiment important, parce que bien expliquer quelque chose, je trouve que ça passe par l'expérience. Et donc voilà, après, ça peut aussi être en regardant quelqu'un faire. Mais c'est vrai que souvent j'essaye de faire moi-même. Donc voilà, grâce à ces fiches, j'ai réparé beaucoup de choses dans ma maison. Et souvent, c'est des choses que j'ai jamais faites avant. Et voilà, je trouve qu'au fil des années, je sens qu'au début, que j'ai commencé à bricoler, oui, c'est sûr que je galérais plus. Et au fil des années, ben voilà, j'acquiers une expérience, même si j'ai pas déjà travaillé ou bricolé dans sur tel sujet ou dans tel domaine, l'expérience dans d'autres domaines me renforce et me permet de mieux trouver des solutions pour chaque domaine. Et donc oui, ça concerne des choses qui assez simples qui peuvent se casser dans la maison. Il y avait les robinets qui goûtent, les prises à remplacer. Puis ça peut être des choses pour se déplacer, comme changer une roue de vélo, enfin réparer un pneu crevé, ou installer une dynamo pour l'éclairage sur le vélo, ou pour la voiture aussi, changer une roue de voiture, ou dépanner une voiture où la batterie est à plat. On a aussi parlé d'ordinateur, comment augmenter la mémoire vive d'un ordinateur, comment faire de la reliure, comment utiliser du vinaigre pour nettoyer. Donc voilà, ça brasse vraiment large. Et aussi, par rapport au sujet, il y a une série de sujets qui sont des demandes. Donc ça, vraiment, c'est une possibilité, c'est d'envoyer par mail, ou de faire passer le mot qu'on aimerait bien une fiche sur tel ou tel sujet. Ça, c'est vraiment très bienvenu.
Et donc, vous recevez à Axel des demandes d'auditrices, de lectrices qui font des demandes particulières, et ça concerne quoi? Enfin, un exemple de demande qui a été faite?
Oui, on en reçoit parfois. Par exemple, le vinaigre pour nettoyer, c'était une demande. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Fabriquer une lampe, je crois, il y avait. Et typiquement pour la voiture. Des trucs pour la voiture. Bon, là pour l'instant il n'y a eu que deux fiches là-dessus, mais Voilà, j'espère qu'une des prochaines filles saura comment faire sa vidange, ce qui est quand même fort utile et qu'on doit faire régulièrement si on a une voiture et qui n'est pas très compliqué à faire une fois qu'on sait comment faire.
Et il y a aussi quelques fiches qui servent à militer aussi, parce que chez Axel aussi, on aime bien les militantes. Et donc, il y en avait quelques-unes. Et là, je vois qu'il y a comment on peut fabriquer de la colle aussi, notamment soit pour aller afficher les affiches. Il y en avait une autre récemment qui était aussi pour comment faire une banderole, c'est ça ?
Oui, c'est sûr que dans les fiches, j'aime bien faire des ponts avec l'actualité, qui ne sont pas toujours visibles. Parfois, c'est un peu caché, mais il y a souvent des ponts. Et donc, effectivement, comme il y avait la grève du 8 mars dernier, l'affiche du mois de février, c'était, je pense, de janvier-février, le hors-série, c'était comment faire une banderole dans l'idée que les femmes qui voulaient et les personnes qui voulaient participer à la grève ou à la marche du 8 mars pourraient trouver là un outil pour participer.
Et comment fabriquer un flambeau aussi ?
Ah oui, les flambeaux, ouais. Toujours utile.
Pour des marches au flambeau. Puis même, tu rajoutes toujours dans les fiches quelque chose de militant. Enfin, elles sont militantes objectivement. Mais elles sont aussi pleines de petits détails militants. Je me souviens que dans ta fiche sur comment fabriquer un nichoir, les petits oiseaux installent une banderole sur le droit au logement dans leur nouveau nichoir. Voilà, je crois que tu as aussi le sens du détail.
Oui, et les dessins, pour continuer, les dessins sont superbes, quoi. Et ils sont vraiment novateurs dans un guide de bricolage aussi, comme on le disait tout à l'heure. D'habitude, c'est l'image, l'homme blanc et parfois une femme à côté qui tient l'outil, alors qu'ici, il y a vraiment... toutes les femmes sont représentées et quelles qu'elles soient, on peut se sentir... concernés par cette question du bricolage. Est-ce que tu as une fiche dont tu veux particulièrement parler ? Ou toi, Madame la bricoleuse, ou Sabine ?
Laquelle choisir ? Peut-être. Il y a une fiche qui est un peu à part, qui n'est pas vraiment du bricolage, mais que je trouve qui est importante de pointer aussi. C'est la trousse de secours pour le bricolage. Alors, je vais la prendre sous mes yeux. Donc, elle est dans le tome 2. Et donc, c'est une fiche qui explique comment composer une trousse de secours. À avoir chez soi, dans son atelier. Alors pareil, hein, comme pour l'affiche sur la boîte à outils, il y a beaucoup de choses, on peut effectivement piocher là-dedans. Mais l'idée c'était, si on continue dans l'idée d'autonomisation, moi je trouve ça important d'être préparé. Et en bricolant, comme en cuisinant, on peut tout à fait à un moment se blesser d'une manière ou d'une autre. Et je crois qu'on évite vraiment... d'avoir des accidents, des suraccidents, si on a un minimum de matériel. Et c'est des choses pour les brûlures, pour les coupures. On peut quand même vite se taper sur le doigt avec un marteau ou se râper le doigt avec une râpe à bois ou se brûler si on utilise un outil qui chauffe. Ça peut arriver. Ça c'est pour se soigner en cas d'accident, mais évidemment il y a aussi toute une série de conseils pour prévenir les accidents, et je pense que c'est important avoir ça en tête, ça permet d'éviter de faire des bêtes erreurs qui mèneraient à des bêtes accidents, voilà. Après il ne faut pas avoir peur, hein. C'est pas si dangereux le bricolage de base.
Oui, non. Peut-être une chose à pointer, c'est que tu fais aussi super attention à ce que ça coûte pas de sous, en fait, ou que ça coûte un minimum. Tu récupères, il y a des fiches sur travailler avec le bois de palette, plusieurs fiches sur la chaux, faire soi-même la peinture suédoise, faire soi-même la colle, etc. C'est aussi très accessible, très abordable finalement, contrairement à ce qu'on peut trouver dans les grandes surfaces ou dans les magasins.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de matériaux qui sont quand même des matériaux pas chers, comme la chaux ou des matériaux de récup, comme les palettes, comme tu disais, Sabine. Après, par exemple, pour tout ce qui est différents matériaux outils, souvent dans les fiches, bon, c'est la liste complète qui est reprise, mais il y a plein de fois où on peut adapter, quoi. Si on n'a pas le bon outil, on récupère un bête truc qui traîne dans la cuisine, ou si on n'a pas la bonne colle, le bon machin, bon, on peut très bien trouver sur internet aussi des recettes pour fabriquer des choses soi-même, qu'on n'est pas obligé d'acheter, quoi.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu présenter ça. Quelle est la... Donc, le recueil, le livre, il est disponible en commande sur le site d'Axel ou il est disponible dans les magasins, là où on peut trouver le magazine?
Alors, il est disponible sur le site d'Axel et on le vend sur le site. Donc, on peut payer en ligne ou bien faire un virement. On n'a pas assez de stock que pour le déposer en fait dans plein de magasins, faire des grands dépôts. En revanche, si même les personnes qui nous écoutent ont des idées d'endroits où ce serait chouette qu'ils soient déposés, voilà, nous on est toujours preneuses de ces idées. Vous pouvez, n'hésitez pas à nous les envoyer. Il y a une adresse de contact sur notre site. Donc voilà, ça peut être une opportunité, mais on l'a pas imprimé en très 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 grande quantité. Le magazine, on les imprime, le hors-série, il y a plusieurs milliers d'exemplaires et on peut se permettre d'en avoir 20 quelque part déposés dans un lieu de vente, alors que le guide bricot, voilà, on les imprime quand même à moins d'exemplaires que les hors-séries du magazine. Donc pour l'instant, on le diffuse par internet, le guide 1 et le guide 2. Donc il coûte 15 euros pièce. Il y a aussi les frais de port qu'il faut prendre en compte. Et alors, donc on le vend aussi quand on fait des stands, quand on fait des présentations, quand on nous demande de venir quelque part à un événement ou quoi le vendre. On le vend aussi de la main à la main, voilà. Et puis, ce qu'on souhaite faire, c'est rendre les fiches accessibles gratuitement, en tous les cas déjà du guide 1. Et donc on est en train de réfléchir à trouver un endroit sur notre site internet où on va pouvoir les mettre pour les rendre accessibles aux personnes qui souhaiteraient simplement les télécharger ou en télécharger une en particulier.
Oui, et ce qu'il faut garder en tête, donc, c'est que c'est sous licence Creative Commons, donc ça c'est vraiment important que c'est tout à fait réappropriable et photocopiable et diffusable, c'est libre de droit tant que c'est dans un but non commercial.
Ok, eh bien on conseille à toutes de se les procurer, parce que d'abord c'est très beau et puis c'est très utile. Et Sabine, puisque tu es là, résumé de ce qu'on peut trouver dans le numéro d'Axel de mars.
Alors dans le numéro de mars, on a un édito collectif, une fois n'est pas coutume, où toute l'équipe du magazine a pris la plume collectivement, disons, pour signer un édito de soutien avec la grève des femmes organisée par le collectif 8 mars. Et c'est vraiment un peu sous ce symbole que ce magazine se situe. On a fait tout un carnet de grève sur le web, parce qu'évidemment avec nos délais de bouclage, on pouvait pas... publier tous les articles qu'on voulait dans le numéro de mars qui doit être bouclé en février. Donc voilà, donc sur le site internet, on a un prolongement accessible à tout le monde de tous nos articles sur cette grande mobilisation. Dans le dossier du mois de mars, on a voulu faire un point sur l'histoire. Sur l'histoire des femmes en Belgique, l'histoire des droits des femmes. On est allé rencontrer les autrices de l'encyclopédie d'histoire des femmes en Belgique, 19e et 20e siècle, Eliane Gubin et Catherine Jacques, avec la collaboration de Claudine Marissal, du CARIF, du Centre d'archives et de recherche pour l'histoire des femmes, qui viennent de publier aux éditions Racine cette encyclopédie qui est absolument passionnante et qui montre que quand on cherche les femmes en lutte, en fait on les trouve, on les retrouve. Je vais peut-être pointer une phrase de Véronique Laurent qui a écrit l'article dans ce dossier sur l'histoire des droits des femmes. Elle, qui pour moi résume la volonté de notre dossier, elle écrit « La méconnaissance de l'histoire des femmes empêche la transmission de leurs combats, les isole, rendant difficiles les alliances ». Donc on a voulu s'inscrire à la fois dans l'actualité mais aussi dans l'histoire, en pointant l'importance de connaître notre histoire, de connaître l'histoire des luttes pour les droits des femmes, que même nous, féministes, ne connaissons pas toujours ou connaissons très partiellement. Donc voilà, on a voulu pointer cet aspect-là. On a aussi fait un entretien qui a été réalisé par Laurence Thévelin avec Jeanne Vercheval, qui est une militante féministe vraiment historique en Belgique, toujours pour avoir à la fois son regard de militante de longue date, mais aussi son regard de femme toujours engagée aujourd'hui sur l'actualité. Ça, c'est pour le dossier. On a certains articles plus d'actualité. Je vais peut-être pointer notamment le bilan du ministère des Droits des Femmes, puisque ça fait 5 ans qu'on a ce ministère des Droits des Femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui était dirigé par Isabelle Simonis, qui est PS, qui a rendu son tablier après les élections communales. Maintenant, elle est mailleur de Flémal à plein temps. Et donc, on s'est entretenu avec elle, avec Rudy De Motte, qui est son successeur, et avec un certain nombre d'organisations de femmes qui ont eu affaire à ce ministère des Droits des Femmes pour tirer une sorte de bilan de ce premier ministère, voilà, de ces 5 ans. On se questionne sur sa prolongation après les élections, qui est à la tête d'un éventuel ministère, avec quelles alliances politiques. Voilà, on se pose toutes ces questions dans cet article qui est accessible en ligne. Voilà. Et puis, le dernier article que je pourrais pointer, c'est un très beau reportage de Fabrice Dimier au Népal, avec des femmes qui ont été victimes de traite des enfants, qui ont échappé grâce à l'action de plusieurs ONG au cirque où elles étaient exploitées et qui ont monté leur propre association et leur propre cirque et qui parcourent le Népal pour sensibiliser les villages sur les dangers du travail des enfants, de l'exploitation des enfants. Et c'est des femmes complètement incroyables dont on suit le parcours pendant quelques semaines dans ce reportage texte et photo.
Eh bien, merci. Un bien beau numéro encore. Et le dossier du mois d'avril, ça sera sûr?
C'est un dossier sur les élections. C'est pas très original, parce que je pense que beaucoup de magazines à cette époque font un dossier sur les élections. Mais nous, notre regard à Axel, moi, c'est un regard sur ce que ces élections peuvent impacter sur les femmes. Et puis d'abord, tout simplement, on fait un petit retour sur à quoi... Enfin, pourquoi on va voter, pour qui, pourquoi, c'est quoi leur responsabilité, c'est quoi leur job, qu'est-ce qu'on va leur confier en votant pour ou contre, disons, à ces différents niveaux de pouvoir. Qu'est-ce qui se joue à ce niveau de pouvoir, que ce soit le régional, le fédéral ou l'européen, qu'est-ce qui se joue pour les femmes? Et puis on pointe un dossier particulièrement, on va pointer le dossier du logement pour le niveau régional, on pointe le dossier des pensions pour le niveau fédéral, et puis pour le niveau européen, on pointe différents enjeux, en particulier en ce qui concerne le droit du travail et l'égalité salariale. Et donc voilà, ça nous permet à la fois de nous réapproprier ces niveaux de pouvoir et en même temps de les questionner et de questionner leur impact sur les femmes. Et l'idée, c'est de donner un peu des outils pour regarder autrement les discours des politiques qui nous attendent.
Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission déjà. Merci Abricolieuse, merci Sabine d'être venue. C'est toujours un plaisir de vous recevoir pour parler d'Axel.